5, 4, 3, 2, 8 et top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire, au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette auberge espagnole du mardi 11 décembre 2012. Gilles Gouget dans le poste, Gérard Viol qui manipule les boutons. Et puis de quoi allons-nous parler? Eh bien on parlera dans un instant avec Nicolas Catin de l'agence locale de l'énergie d'une formation qui a lieu en fin de semaine sur le thème des obligations d'audit et de diagnostic énergie pour les copropriétés, un sujet super sérieux. Ensuite on parlera de crowdfunding, de financement par la foule avec Sébastien Paul et Marielle Rossignol d'Illusion et Macadam qui seront en studio. Et Adrien Aumont, cofondateur de Kiss Kiss Bank Bank, au téléphone. Adrien Aumont qui sera présent ce jeudi pour parler de tout cela. Puis ce sera le duo Corde à Corde qu'on recevra en live, qui sont en concert au Blabla Bar samedi 22 décembre. Et puis enfin c'est Martin Gerbier, directeur de l'école de cirque Balthazar, que nous aurons au téléphone à propos du stage de Noël du 31 décembre 2012 au 4 janvier 2013. Pour les petites têtes blondes et brunes qui souhaitent devenir des artistes de cirque, pourquoi pas? Pour l'heure, eh bien, une première pause musicale, on se retrouve juste après pour parler bilan énergétique.
Our mothers and our fathers, they had lives to live. Oh, and today is proof that mistakes were made. There's not a doubt in my heart, they done the best that they knew how. And there's still time for us to make the grade. We got to learn from the mistakes that were made in the past. We got to clean so that we can use our minds. In order to get it together, got to get our hands together. Our country and our cities, they have been betrayed for money. Oh, and somehow the people, they will make a change. Yeah, there's not a doubt in my mind, if hunger and anger place the blame, there won't be a country left to change. We got to see what we're doing in the name of comfort. We got to see, we got to feel the warning signs. But to get it together, we've got to
to clean so that we can use our minds. But in order to get it together, we've got to get our heads together.
Everybody's gonna make it this time, les excellents funkadelic. Et oui, tout le monde y arrivera un jour. Y arrivera à quoi ? Eh bien, à se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations en matière d'obligation d'audit énergétique. Car depuis le 1er janvier 2012, c'est le cas. Nicolas Catin, bonjour.
Bonjour.
Alors, justement, l'Agence locale de l'énergie de Montpellier organise ce vendredi 14 décembre, après-midi, de 13h30 à 18h, une session longue, une formation pour les copropriétaires sur justement audit énergétique ou simple diagnostic, obligations et opportunités pour votre copropriété. Une formation qui répond au cadre légal que j'ai brièvement évoqué, mais aussi justement à l'obligation pour les copropriétaires de s'y conformer, ce qui reste pas toujours évident, on va dire.
Effectivement, ne serait-ce que déjà pour avoir la formation. Là, nous, dans cette formation-là, elle fait écho en fait à un décret qui est sorti le 27 janvier 2012, le décret numéro 2012-111, paru au JO dans la foulée, et donc qui est relatif en fait à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus. Mmh. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'une copro, donc un immeuble collectif qui aurait donc plus de 50 lots. Et attention, là, c'est des lots qui ne sont pas définis par la loi, donc c'est tous les lots. Je suis un petit peu technique.
C'est pas nécessairement
appartements, garages. Alors, ce qui est un peu débile, pour être clair, hein, parce qu'un garage, on ne le chauffe pas, une place de parking, on ne le chauffe pas, mais c'est lots principaux et secondaires, tout est englobé. Donc, une petite copro de 10-20 logements, avec quelques garages de 3 parkings, elle peut basculer en fait, dans cette obligation-là. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, toutes les copropriétés qui sont en chauffage collectif sont de toute façon soumises à obligation. Au-delà de 50 lots, on va partir sur un audit énergétique, qui est un document assez complet. Et en deçà de 50 lots, de toute façon, les copros seront soumises à une obligation de DPE collectif. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Pour que ça parle à tout le monde, hein, c'est l'étiquette énergie qu'on voit sur les annonces immobilières, par exemple. Mmh. Ça, c'est issu du DPE individuel qu'on fait par appartement. Si vous vendez, si vous louez, vous avez l'obligation de fournir ça à l'acquéreur ou au locataire pour qu'il puisse un petit peu se situer par rapport à sa consommation d'énergie. S'il est plutôt A, donc plutôt bien, ou plutôt EF, donc là, plutôt consommateur d'énergie. Enfin, si le logement, en tout cas, est consommateur d'énergie. Donc, l'idée de cette formation-là, c'est vraiment de décrypter un petit peu tout ça, savoir quelle copropriété est soumise à quoi, et si elle est soumise, ou à un DPE collectif ou à un audit, de faire le point donc avec des professionnels pour voir quel est le contenu de ces diagnostics-là, comment ça coûte et puis à quoi ça sert.
Voilà, parce que alors, ceux qui du coup vont venir et puis vont se dire « Ah, je suis pas concerné », ils vont pas forcément partir et rentrer chez eux. Peut-être que même si on n'est pas obligé légalement de le faire, ça vaut toujours le coup de le faire. Mais justement, pour la question du coût, c'est à la charge de la copropriété, c'est un audit. Est-ce que c'est fonction de la superficie, du volume du bâtiment ?
Alors effectivement, le coût sera bien entendu à la charge donc, du syndicat de copropriétaires, donc l'ensemble des copropriétaires qui vont payer. Du fait que c'est une obligation, genre, l'État ne va pas vous financer quelque chose qui est obligatoire, hein, qui est réglementaire. Voilà. Malgré tout, il existe en fait une possibilité pour des copropriétés, on va dire, qui seraient un peu volontaires, qui iraient au-delà de la réglementation qui leur est faite. Bon, par exemple, une copropriété qui serait en chauffage individuel, il n'y aurait que des logements chauffés de façon individuelle et pas collective. Donc elle n'a pas d'obligation pour le moment par rapport à ça. Elle peut engager quand même une démarche d'audit énergétique, donc faire appel à un bureau d'études, l'ALE, un peu, on peut donner des cahiers des charges hein, par rapport à ça, on est là vraiment pour accompagner. Et puis elle peut bénéficier d'aides financières de l'ADEME, Languedoc-Roussillon, et de la région Languedoc-Roussillon, donc à hauteur de 50%. Donc ça peut être intéressant de diviser par deux en fait, le coût d'un audit si on veut le faire de façon volontaire. Par contre, effectivement, vous le rappeliez, si la copro elle est soumise à obligation, bon, ben, voilà, c'est à elle de se débrouiller entre guillemets, pour le financer.
Alors cette loi est sortie, comme à chaque fois qu'on prend des décisions politiques dans ce genre, ça crée des marchés entre guillemets. Est-ce qu'il y a des certifications, des labellisations qui existent sur les cabinets, les bureaux d'études qui réalisent ces audits pour être sûr de ne pas se retrouver avec... on va dire, si j'en avais pris un autre cabinet d'études, j'aurais pas eu les mêmes résultats ou j'ai payé deux fois le prix par rapport à un autre, etc.
Alors, il n'y a pas en fait de... Bon, c'est pas aussi bordé que ça. En fait, la loi, dans le cadre de ce fameux décret, puis il y a un projet d'arrêté là, qui va vraiment venir le compléter, va en fait définir un niveau d'expérience requise par rapport à ces bureaux d'études qui vont effectuer ces audits énergétiques, et puis aussi les éléments en fait, techniques de contenu. En gros, qu'est-ce qu'on doit être dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc ça permet déjà de vérifier un petit peu. Et puis au-delà, nous, je vous disais, on a des cahiers des charges assez étoffés, parce que quitte à faire venir une entreprise privée, enfin externe, qui va auditer un petit peu le bâtiment, donc la qualité de l'isolation, la qualité de la ventilation, le chauffage, la régulation, la distribution, type de radiateur ou autre, qui va caractériser et puis donner des pistes d'amélioration. Bon, bah, quitte à ce qu'ils viennent, autant leur faire aussi plancher un petit peu quelques heures sur l'éclairage, par exemple, tout ce qui consomme de l'énergie dans la copropriété, et puis avoir un bilan vraiment très complet.
Alors, lors de cette formation, vendredi après-midi de 13h30 à 18h, pour laquelle on rappelle qu'il reste encore des places, on peut composer le 04 67 91 96 deux fois, 04 67 91 96 96. Il y aura des professionnels spécialisés dans le secteur, évidemment les conseillers de l'Agence locale de l'énergie, mais aussi des témoignages de présidents de conseils syndicaux, parce que là aussi, ça peut être intéressant de voir, on va dire, du côté syndic, comment ça se passe. Pour ceux qui ont déjà, on va dire, fait ce pas, est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'audits qui ont été réalisés dans le courant de l'année à Montpellier par exemple?
Alors, on n'a pas vraiment de chiffres exhaustifs sur ce qui a été fait concrètement sur Montpellier dans le courant de l'année, mais par contre on sait que l'ADEME et la région avaient financé déjà l'an dernier donc des audits qui à l'époque n'étaient pas obligatoires, donc les copros qui avaient senti le truc ou en tout cas qui étaient motivés pour le faire ont pu bénéficier d'une aide, et il y a une douzaine d'audits qui ont été faits, donc c'est relativement peu, plus ceux qui sont faits peut-être de façon informelle et les gens ont décroché de subventions. Donc c'est un marché qui pour l'instant était un petit peu naissant, qui était beaucoup développé notamment dans les régions plus peuplées ou un peu plus sensible aux aléas climatiques, peut-être sur les réflexions de consommation d'énergie, donc Île-de-France, du côté de Rhône-Alpes ou des gens de ces côtés-là. Mais du coup, j'ai perdu le fil de la question.
Oui, on n'avait pas vraiment de chiffres pour savoir combien de personnes ont déjà réalisé ces audits. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le témoignage de président de conseils syndicaux pourra être un bon éclairage aussi.
Oui, tout à fait. Merci de ramener dans le droit chemin. Donc effectivement, il y aura un témoignage d'un président de conseil syndical qui a fait faire un audit l'an dernier. Et donc, il pourra nous dire un petit peu comment ça s'est passé, quel ressenti il a eu par rapport à ça, concrètement, à quoi ça va leur servir dans leur copropriété. Bon, c'est une très grosse copropriété hein, qui est du côté d'Antigone. Là sur Montpellier, donc c'est aussi intéressant parce que c'est une des plus grosses copro de la ville. Donc c'est intéressant, il va pouvoir bien sûr nous donner des ordres de prix et puis aussi je pense des conseils très essentiels sur la préparation de l'audit, parce que là encore j'insiste, hein, faire venir, c'est des prestations qui coûtent quand même quelques milliers d'euros, donc c'est pas des dépenses qu'on peut faire à la légère, donc autant faire venir l'auditeur de façon préparée et puis donc déjà rassembler des données telles que les consommations d'énergie, donc aller poser ces questions là au syndic et puis aussi regarder un petit peu il y a toutes les questions qu'on souhaiterait poser pour éventuellement mettre des options dans l'audit. Pour, je vous disais, j'évoquais l'éclairage par exemple, mais c'est typiquement le cas. L'éclairage, quitte à faire venir un professionnel, autant le faire plancher vraiment sur l'ensemble des consommations d'énergie de la résidence.
Audit énergétique ou simple diagnostic, obligations et opportunités pour votre copropriété, c'est ce vendredi 14 décembre 2012 de 13h30 à 18h. Ça se passe à la Maison de la Démocratie, 16 rue de la République, non loin de la gare. Et je rappelle le numéro de téléphone pour s'inscrire, 0467 91 96 96. 96, 91, 96, deux fois. On précise que c'est organisé en partenariat avec l'ARC Languedoc, qui est l'association des responsables de copropriété en Languedoc. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Nicolas Catin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le prochain Café Climat, ce sera...
Ce sera au mois de février, 12 ou 13 février de mémoire, le mardi, voilà, à voir sur l'agenda. Et là, on fera un truc un peu sympathique. On va faire en fait un test d'étanchéité à l'air sur les locaux de l'Agence locale de l'énergie, donc sur nos propres locaux, à Antigone, là, sous le polygone. Donc ça va être sympathique et on va pouvoir tester, voir par où rentre l'air, où sont les fuites et comment remédier, bien sûr, à ces consommations inutiles.
Et pourra peut-être permettre de vérifier l'adage selon lequel les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ça, nous en parlerons à cette occasion. On va se quitter avec The Dynamics qui nous interprète Money. The Dynamics dans l'auberge espagnole. Et je salue Bruno Bertrand qui est arrivé de l'autre côté de la vitre. On va parler argent justement. Et c'est Sébastien Paul d'Illusion et Macadam qui est avec nous. Tandis que Marielle Rossignol ne parlera pas. Elle est restée en dehors du studio. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Et on est aussi au téléphone avec Adrien Aumont qui est cofondateur de Kiss Kiss Bank Bank et qui est à l'autre bout de la France. Bonjour Adrien.
Bonjour à tous.
Alors ce jeudi, eh bien, tu seras, Adrien, présent à Montpellier pour parler de crowdfunding, un terme anglicisé qu'on peut traduire en français par eh bien, le financement par la foule. On avait déjà reçu Vincent Ricordo une paire de fois sur les ondes pour parler justement de Kiss Kiss Bank Bank, qui est un site, une plateforme à travers laquelle eh bien, les gens qui ont des projets peuvent appeler les internautes à les financer. Une aventure qui se déroule plutôt bien et cette venue à Montpellier souligne aussi le fait que Illusion et Macadam et Kiss Kiss Bank Bank sont partenaires, plus que partenaires, puisque Illusion et Macadam fait partie des mentors de Kiss Kiss Bank Bank. C'est bien ça, Sébastien ?
Tout à fait, c'est le terme.
Alors, c'est une notion, on va dire, qui revient en force, mais qui rappelle un petit peu les mécanismes de bah, quand l'État ne fait pas, eh bien, ou quand ça n'est pas fait, les gens le font eux-mêmes. Là, en l'occurrence, il s'agit de financer des projets. Ça veut dire que les banques ne sont plus prêtes à le faire. Donc, du coup, les gens organisent eux-mêmes leur financement par la foule. Est-ce que c'est un signe des temps ?
En quelque sorte, oui. Enfin, je pense qu'Andréa en parlera mieux que moi, mais il me semble qu'il y a autour de nous beaucoup de manières de s'organiser de la sorte. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus les gens se réapproprient, je crois, enfin les citoyens se réapproprient les choses. On le voit dans beaucoup de domaines, dans le logement, on le voit à l'œuvre à beaucoup d'endroits, et pourquoi pas aussi sur la question du financement. Où le do-it-yourself existe depuis longtemps, évidemment, l'autoproduction. Et là, je crois que la manière, enfin, ce qui est induit par le web 2.0, permet de le faire à une autre échelle et permet à faire, je crois, ce qu'on faisait depuis longtemps, mais en tout cas, à le rendre beaucoup plus clair, beaucoup plus légal et à le réaliser à une plus grande échelle.
Voilà, toucher à avoir un impact particulièrement important. Alors, Adrien, Kiss Bank Bank, c'est une aventure qui démarre plutôt bien et qui se poursuit plutôt bien avec le soutien aussi de groupes importants. Ça, on s'y serait peut-être pas nécessairement attendu. Comment vous avez réussi ce tour de force pour amener avec vous des mentors parfois qui sont de taille très importante et comment vous êtes perçu, vous, par les banques ou la poste ou que sais-je ?
Alors, ce qui était important, en effet, c'était important de resituer, en effet, Kiss Kiss Bank Bank et le crowdfunding au sein de l'économie collaborative, comme a pu le dire Sébastien. Aujourd'hui, les gens ont une mobilité partagée grâce au covoiturage. Les gens peuvent, d'une certaine manière, acheter de la nourriture d'une autre manière, avec moins d'interlocuteurs, moins d'intermédiaires. Avec la ruche qui dit oui, par exemple, vous pouvez vous loger grâce à Bedi Casa, qui est un concurrent d'Airbnb, qui d'ailleurs a été monté par une entrepreneuse montpelliéraine. Et vous pouvez aussi vous financer avec la foule, avec votre communauté, avec les internautes. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les banques n'ont jamais été vraiment très actives dans le financement de la culture et de l'innovation. L'État a toujours joué un rôle central au sein de ces financements et des financements privés ont toujours été mis en place pour ce type d'émergence. Mais que ce soit l'État ou les localités ainsi que les producteurs ou les financeurs privés se sont retirés un petit peu ces derniers temps à cause d'une crise économique qu'on peut tous constater dans notre quotidien. Et c'est vrai que les gens ont décidé de se financer autrement, en créant du lien social, avec des nouvelles règles du jeu. Et comme vous pouvez le constater en vous baladant sur Kiss Kiss Bank Bank, les règles du jeu sont réellement différentes. On est ici dans l'idée d'un lien social, d'un lien émotionnel entre le créateur et sa communauté, et entre son projet et sa communauté, puisqu'on parle de contrepartie et non pas de dividendes. Il n'est pas ici question de financer un projet et de prétendre à recevoir des dividendes, puisqu'on parle de secteurs qui mettent du temps à générer des dividendes ou ne peuvent pas toujours en faire. Donc on est dans une sorte de mécénat 2.0, et aujourd'hui, pour être très honnête, on est partenaire de la Banque Postale, parce que la Banque Postale voit ça d'un très très bon œil, puisque c'est pas forcément son terrain de prédilection, et en même temps c'est une banque qui a un réel regard sur la société, et qui dans son ADN, par le fait que la Poste distribue du courrier tous les jours en fait d'une certaine manière à tous nos concitoyens, on va dire que c'est une des, la banque la plus proche de des gens et de nos concitoyens, et que c'était normal pour elle de venir aider, donner du pouvoir aux gens qui ont décidé de se débrouiller par eux-mêmes et de faire du do-it-yourself. Donc c'est un partenariat très complémentaire et vertueux, en tout cas de ce qu'on peut constater aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que la Poste s'était aussi distinguée ces dernières années avec son observatoire de la confiance, etc. Donc des initiatives qui sont pas forcément, qu'on retrouve pas, on va dire, dans les banques les plus privées et les plus libérales. Avec, et même si c'est peut-être en passe de disparaître maintenant, avec aussi une culture de la chose publique, pour pas dire du service public.
Écoutez, le service public est en difficulté comme un petit peu tous les secteurs actuellement, et donc d'une certaine manière, tous ces gens sont aussi en train de mener des réflexions pour savoir comment reprendre une position intéressante au sein de la société. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ce soit les collectivités territoriales ou l'État, ou finalement tout le monde est en train de se poser ces questions, de remettre en question cette position. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un mouvement très très fort des citoyens qui reprennent leurs droits, ou en tout cas qui reprennent possession de leur pouvoir et de leur confiance en eux, et qu'il y a une société qui est en train de changer, qui est peut-être en train de s'horizontaliser, ce qui nous permet à tous en fait d'être dans des liens interpersonnels et plus dans des liens institutionnels. Et la grande question des mois et des années qui viennent, c'est de savoir comment ces institutions vont retrouver une place au sein de ces nouveaux rapports interpersonnels.
Alors, pour autant, le crowdfunding, ça a l'air bien et tout, mais c'est pas Harry Potter qui l'a inventé. Il suffit pas de taper d'une baguette magique et de s'ouvrir un projet. On l'avait vu avec Vincent Ricordeau. Il faut quand même s'y atteler, être hyper présent, hyper assidu sur les outils de réseautage sur Internet pour bien faire parler de son projet, être assez créatif pour proposer des choses originales, amusantes et inventives pour que les gens soient attirés par les projets. Quelque part, c'est pas gratuit, il faut y consacrer du temps et de l'énergie quand même.
En effet, c'est si l'argent tombait du ciel ou venait des quatre coins du web, tout ça serait beaucoup plus facile, et ce serait en effet un tour de magie, comme vous l'avez dit. Il est question ici de la communauté d'un créateur de projet. Tout notre travail, c'est de faire beaucoup de pédagogie auprès de tous les créateurs, afin qu'ils comprennent quel visage à leur communauté, comment les structurer et comment la mobiliser pour arriver à se financer. Aujourd'hui, quand on a commencé, 33% des projets réussissaient à se financer. Aujourd'hui, on approche des 60% de réussite, et notre moyenne est un petit peu au-dessus de 50%. Donc vous voyez que notre outil et notre manière de travailler s'améliore de jour en jour, et les gens qui nous utilisent, eux aussi, apprennent de plus en plus à mobiliser leur communauté afin de financer leurs projets. C'est d'ailleurs tout ce qu'on verra ensemble jeudi. C'est que c'est le but de cette intervention et de l'organisation d'Illusion Macadam, c'est de pouvoir essayer de former finalement tous les créateurs montpelliérains qui s'intéressent à ces nouvelles techniques de financement. Et mon but sera de leur donner toutes les clés de lecture pour qu'ils arrivent à se financer le mieux possible.
Voilà, pour qu'ils arrivent à déterminer s'ils sont bankable, comme on dit. Donc c'est ce jeudi 13 décembre à 17h à la Laiterie des Beaux-Arts à Montpellier. Et puis il y aura peut-être Hag qui sera présent, puisque lui, il a réussi son projet grâce à un financement participatif, puisque ce sera aussi l'occasion pour ceux qui ont déjà testé, utilisé et réussi de partager leur expérience. Et j'imagine qu'Illusion et Macadam sera dans la place.
Et bien sûr, c'est une rencontre qu'on organise, on invite Kiss pour évidemment parler de ce mentorat, qu'est-ce que c'est, et surtout parler du financement participatif. Et il y a beaucoup d'autres porteurs de projets montpelliérains qui passent par Kiss ou d'autres plateformes de financement participatif et qui ont une expérience à faire partager et qui seront sûrement dans la salle.
Adrien Aumont, Sébastien Paul, on vous remercie d'être venu nous annoncer ce rendez-vous. Je rappelle, c'est jeudi 13 à 17h, c'est à la Laiterie, quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Et on va se quitter avec Musica Nuda e Complici. Au revoir.
Complici, più che due amanti siamo complici, finiti ormai gli slanci facili.
sappiamo troppo di noi due e non parliamo più. Complici, intrecci d'alibi reciproci, siamo persone sole che non si amano più.
Musica nuda complici et de la complicité, bien il en faut pour faire un duo. C'est un duo que l'on accueille à présent, le duo Quart d'accord qui se produit ce samedi 22 décembre à 20h au Blabla Bar. Ça se trouve quartier Candolle, dans les petites rues non loin de la fac de médecine, non loin de Divergence FM. Un duo composé de Eugénie Loison et Sylvain Gobert. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors il faut parler très près des micros car sinon ça ne marche pas. Vous avez tous les deux en commun un parcours couronné de récompenses et autres médailles d'or et aussi de collaborations prestigieuses. Mais qu'est-ce qui vous a fait vous rencontrer et qui vous a fait former ce duo et ça remonte à quand ? Bref, la petite histoire du duo.
Alors, la petite histoire du duo, donc moi, ça faisait longtemps que j'avais ce projet en tête. J'avais fait quelques essais infructueux. Et il a commencé à véritablement voir le jour en février 2012, suite à ma rencontre avec une très bonne violoniste qui était riche de tout un tas d'expériences musicales assez diversifiées. Et donc avec elle, j'ai déjà commencé à monter le répertoire. On a fait quelques concerts et notamment on a été programmé aux Internationales de la guitare pour jouer à l'occasion du Salon de la lutherie au Corum. Et donc c'était notre dernier concert ensemble parce qu'elle après elle s'est envolée vers d'autres horizons musicaux et maintenant elle étudiait passionnément la musique jazz. Et donc à notre dernier concert à cette occasion, c'est là que j'ai rencontré donc Eugénie Loison qui était venue nous écouter. Et donc on a discuté, échangé nos numéros et puis je suis allé l'écouter jouer aussi à l'un de ses concerts. Et puis, du coup, elle a pris la suite. Et donc, maintenant, le projet continue avec Eugénie Loison.
Mmh. Et Eugénie, toi, qu'est-ce que tu comment tu es venue à ce concert ? Dans quelles circonstances ?
En fait, à la base, c'était le Salon de la lutherie. Donc, je venais découvrir un petit peu ce qui se passait. Il y avait ce duo violon-guitare, un duo que je connaissais très peu en définitive parce que je suis dans d'autres duos aussi, violon-violoncelle et violon et harpe. Donc, c'est une formation qui me tient à cœur parce qu'une complicité se crée très facilement et une belle écoute. Et en définitive, j'ai découvert cet instrument, la guitare, qu'on connaît peu en définitive en classique. On a plus l'habitude d'entendre dans des groupes rock ou du flamenco, ce genre de choses. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait aller chercher des couleurs avec le violon très, très intéressantes musicalement. Et donc Sylvain, après, par la suite, est venu écouter le duo violon et harpe, où on jouait déjà l'histoire du tango toutes les deux, avec Doriane Cheminée qui est harpiste. Et en fait, il s'est avéré que le son et les personnalités se sont plus. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Il m'a rappelé par la suite pour qu'on travaille ensemble. Mmh. Et ça se passe bien.
Et alors, comment est-ce que ça appelle ce line-up particulier, guitare-violon Est-ce que ça appelle un répertoire particulier Est-ce que ça pose des questions quand on choisit les morceaux qu'on doit jouer Parce que ce n'est pas forcément une forme très usitée.
Oui, ça pose pas mal de questions.
Les questions que ça pose, c'est au niveau de l'équilibre dans l'écriture. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours voulu que la guitare soit pas cantonnée à un rôle uniquement d'accompagner la voix soliste. Et j'avais véritablement envie que les sonorités se mélangent, s'accordent, jouent ensemble. Et donc, effectivement, le choix du répertoire, on fait attention à ça. Et l'écriture de Astor Piazzolla se prête tout à fait à ce jeu-là. Et on est en train de monter aussi les 7 chansons espagnoles de Manuel de Falla. Et voilà, on est très, très content de ce répertoire parce que l'écriture est très équilibrée et ça permet vraiment aux deux instruments de jouer ensemble et de trouver leur place.
Alors que ce soit le tango ou le flamenco, l'Argentine ou l'Espagne, quelque part c'est vrai que c'est des pays qui ont beaucoup écrit pour la guitare, par voie assez naturelle en quelque sorte.
En fait, comme le précisait Eugénie, effectivement moi je ne fais pas de guitare flamenco, et la guitare elle est née 40 ans après la mort de Bach, donc bien avant que l'univers du flamenco s'intéresse réellement à la guitare. En fait la guitare est arrivée très tard dans le flamenco, à la base c'était uniquement de la voix et de la percussion, et c'est quelques compositeurs espagnols qui se sont pris de passion pour cet instrument et ont réfléchi à comment développer le jeu à cet instrument en repérant tout de suite qu'avec une guitare on pouvait conduire plusieurs voix en même temps et qu'on pouvait en faire quelque chose de plus intéressant que simplement d'accompagner comme c'était déjà le cas à l'époque. Et donc ils ont beaucoup écrit et ensuite les flamenquistes se sont inspirés de ces trouvailles de ces compositeurs. Hein, je pense comme compositeur à Fernando Sor, Carulli, Carcassi, Giuliani, tous ces compositeurs-là. Donc ensuite, beaucoup plus tard, dans le flamenco, la guitare petit à petit est venue jouer un rôle de plus en plus intéressant. Et maintenant, effectivement, elle rayonne totalement dans la musique flamenco. Mais comme le rappelait effectivement Génie, c'est vrai que du coup, on en a un peu oublié, ça a un peu occulté tout ce répertoire de musique classique qui peut y avoir à la guitare.
Oui, qui est super vaste et qui souvent est joué par un homme seul, j'ai envie de dire.
Tout à fait. En fait, un guitariste classique a la même démarche qu'un pianiste. Mm-hmm. Il joue en récital seul, il joue en petite formation de musique de chambre, donc duo, trio, quatuor, et il joue aussi en soliste accompagné par un orchestre à cordes. C'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire durant mes années d'études, où j'ai joué un concerto pour guitare et orchestre à cordes de Antonio Vivaldi.
En ce sens, peut-être que finalement la grande histoire du rock a un petit peu fait oublier aux gens que c'était pas nécessairement un guitariste rythmique et un guitariste lead. Et c'est vrai qu'il y a que dans le classique où on voit vraiment la guitare exploitée comme un orchestre elle toute seule en quelque sorte.
Tout à fait. C'est d'ailleurs Hector Berlioz qui disait ça de la guitare, qui disait que la guitare est un orchestre en miniature. Et donc c'est vraiment dans cet esprit-là que j'aborde cet instrument. Et que je le fais découvrir quand je donne des cours, que je le fais découvrir aussi à mes élèves.
Alors Eugénie Loison et Sylvain Gobert ont eu la bonne idée de venir avec leurs instruments. On va les laisser s'installer un petit peu pour nous jouer un titre intitulé Café 1930, si je ne me trompe pas. C'est la bonne idée d'amener un pupitre avec vous. Et puis on se retrouve juste après. On rappelle que vous êtes en concert ce 22 décembre, c'est au Blabla Bar, rue Candolle, ou pas 4, très loin.
4 rue Candolle.
Voilà, exactement. 4 rue Candolle.
Thank you.
Et on remercie Eugénie Loison et Sylvain Gobert, le duo Corps d'Accord, qui viennent de nous interpréter ce Café 1930, un titre qui figure parmi un répertoire que vous donnerez, je le rappelle, ce 22 décembre au Blablabar, 4 rue Candolle. Est-ce que par rapport au répertoire que vous choisissez, est-ce qu'il y a des adaptations à faire, étant donné le fait que vous êtes en duo dans cette forme pas très usitée d'un duo guitare-violon?
Alors, avant de répondre, juste, je corrige une petite, vous écorchez un petit peu le nom du duo, c'est le duo Corps à Cordes.
C'est alors c'est moi qui l'ai carrément mal écrit sur mon article.
C'est un jeu de mots.
Corps à cordes.
En fait, c'est un jeu de mots en fait avec on fait corps. C'est un corps à corps avec les cordes, si vous voulez.
Absolument.
Et voilà. Et pour répondre à votre question, je crois que je vais laisser un peu parler Eugénie parce que effectivement, pour le violon, ça demande une grosse adaptation.
C'est moi qui ai le plus gros du travail au niveau de l'adaptation, surtout, en fait, c'est un travail personnel au niveau du son, de la sonorité, puisqu'il faut trouver l'équilibre entre les deux instruments. Et en fait, autant un violon peut sonner super bien et très fort, autant la guitare, elle a un jeu à faire au niveau de la sonorité et de la résonance. Donc en fait, il faut que moi, je me taise un petit peu. Donc il a fallu que je mette un petit peu mon ego de côté et dire, bon, ben, on va chercher des couleurs dans le pianissimo, dans la subtilité. En plus, j'ai l'habitude... de jouer avec des instruments qui ont énormément de résonance, que ce soit le violoncelle ou la harpe. Donc là, les sons s'équilibrent très facilement. Chaque partie prend son plaisir à jouer. Là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je couvre Sylvain. Donc il faut vraiment que je trouve le juste milieu dans la sonorité tout en restant présente, parce que c'est ce qu'il y a de très compliqué, en fait. Jouer piano tout en ayant une certaine vibration, une certaine présence et chaleur dans le son. Donc j'ai eu tout ce travail à faire d'adaptation pour moi, pour ma part personnelle. Vraiment.
Oui, parce qu'en plus de jouer avec, dans d'autres duos avec des instruments plus sonores, entre guillemets, il y a aussi le fait que tu as une expérience avec l'orchestre, où là on est tout un paquet et où ça on voit le bois.
Voilà, c'est ça. Quand on se retrouve 90 musiciens, voilà, on est tranquille, on peut jouer. Bon, les pianos sont à faire, mais bon, on a toujours quand même un volume sonore assez important. En plus de ça, je joue en soliste avec un orchestre de chambre. Donc là, pareil, je joue plein son. Généralement, les morceaux sont très éclatants, très, très virtuoses. Donc, on n'a pas trop de soucis à se faire. Même les pianos, on n'est pas dans le vrai pianissimo d'orchestre ou de musique de chambre. On est dans un pianissimo de soliste. C'est pas du tout le même. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse un effort et que je fasse attention. Et c'est une écoute de chaque instant et pour vraiment caler et calibrer mon son par rapport à la guitare. Et ce qui est un travail très passionnant, dans le sens où j'ai découvert justement les couleurs de mon instrument dans l'infiniment petit. Mmh. Voilà.
Eh bien, on va être obligé de se quitter là parce que finalement, bien, on parle et puis le temps passe. On rappelle que vous êtes en concert samedi 22 décembre à 20h. C'est au Blabla Bar 4 rue Candolle. Et on retrouve évidemment quelques extraits sur duocorpsacordes.com où on retrouve toutes les informations sur le duo.
Et on sera en fait en première partie, c'est ça qui est intéressant, de South Fusion, qui est un autre duo guitare-violon, mais cette fois-ci autour de la musique jazz. Donc venez découvrir ces deux duos. Voilà. Et Eugénie aussi donne des cours de violon et moi des cours de guitare. Donc
absolument.
Vous pourrez retrouver mon site internet www.guitare34.com si des cours vous intéressent. Et on se donne rendez-vous samedi 22 au Blabla Bar, 4 rue Candolle à 20h. Merci.
C'est dit et c'est bien dit, Sylvain, Eugénie. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de Divergence. On se quitte avec un extrait de ce qu'on peut trouver sur votre site. C'est le Libertango par vous-même. Thank you. Le duo corps à cordes, ça y est, j'ai corrigé mon article, en concert donc au Blabla Bar ce samedi 22 décembre. Et toujours au mois de décembre, comme dans chaque vacances scolaires, le Centre des Arts du Cirque Balthazar propose des stages découvertes qui s'appuient sur une pédagogie créative, des méthodes actives, corporelles et ludiques pour permettre aux enfants de découvrir les 5 domaines des différentes disciplines artistiques. La prochaine édition de ce stage de Noël a lieu du 31 décembre au 4 janvier. Et c'est Martin Gerbier, directeur de l'école de cirque Balthazar, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Martin.
Bonjour.
Alors donc, comme chaque année, vous proposez ce stage pour que les petites têtes blondes et brunes qui ont envie de s'initier au cirque puissent le faire. Donc à travers ces 5 domaines et différentes disciplines artistiques, quelles sont-elles pour ceux qui nous écoutent?
Écoutez, vous avez à la fois tout ce qui concerne l'aérien, nous avons aussi l'équilibre, l'expression, et puis le jeu d'acteur, nous avons la jonglerie et l'acrobatie. Bon, c'est à peu près les 5 disciplines, mais la spécificité de ce stage justement qui aura lieu à Noël, c'est que c'est aussi cirque et trampoline. Voilà, donc on s'associe aussi avec un professeur de trampoline pour travailler à la fois la découverte un petit peu, je dirais, des arts du cirque en général, mais aussi un peu de ce travail qu'il y a au niveau de la hauteur, le travail un peu acrobatique avec le trampoline, et qui est un outil quand même assez, assez remarquable pour ça.
Oui, le trampoline, sans mauvais jeu de mots...
Je m'entends, hein.
Hein ?
Un grand trampoline, hein.
Oui, comme on a pu voir, je me souviens d'un vieux film en noir et blanc sur le cirque. Je me demande si c'était pas le plus grand chapiteau du monde, où il y avait déjà peut-être des choses comme ça. Le trampoline, qui est aussi une bonne façon, sans mauvais jeu de mots, un espèce de tremplin vers tout ce qui est aérien, qui est très utilisé dans la voltige, le trapèze.
Alors, surtout, le trampoline nous aide dans toutes les figures acrobatiques, c'est-à-dire un travail de voltigeur. L'aérien est quelque chose de plus posé avec un objet que ça peut être une corde, un trapèze, un tissu. C'est moins, c'est plus une forme de suspension l'aérien, assez bien sûr physique et acrobatique. Mais là c'est vraiment sur des mouvements acrobatiques en l'air. Ça peut être du supérieur-arrière, de la vrille et autres. Alors pour les petits évidemment c'est une découverte justement de cette question de légèreté, de hauteur qui peut être travaillée grâce à ça parce que ça modifie un peu son rapport à la pesanteur. Mais à côté de ça, évidemment, c'est pour qu'ils se sentent plus à l'aise, c'est pour qu'ils aussi travaillent sur une écoute corporelle, sur une coordination et sur un rapport à l'espace. Mmh. Donc ça va plutôt bien avec les disciplines qu'on peut apporter, en effet, à la fois au niveau des aériens, l'acrobatie, mais aussi des objets d'équilibre.
Mmh. Alors ce stage se déroule du 31 décembre au 4 janvier. C'est de quel âge qu'on peut y inscrire ses enfants ?
Eh bien, écoutez, à partir de 3 ans, on fait des ateliers 3-5 ans, plutôt autour de la motricité, de l'imaginaire et bien sûr une découverte du trampoline, et après 6-12 ans.
Et on retrouve toutes les informations, notamment les tarifs, on retrouve ça sur balthazar.asso.fr avec tout le descriptif. Depuis la création du pôle des arts du cirque à Alès, est-ce que le cirque connaît un engouement particulier de la part du public ?
Écoutez, en tout cas, le cirque, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est connu et reconnu aussi pour ses vertus pédagogiques, mais aussi pour son évolution artistique dans le domaine contemporain. Mmh. Donc évidemment, nous, de notre côté, on sensibilise cet art, à cette évolution, en créant à la fois des spectacles. D'ailleurs, nous jouons, j'en profite pour dire que nous jouons à l'Aglo, en fait, sur différentes communes. Là, nous sommes à Cournonsec, où on fait le spectacle des élèves de formation professionnelle, puisque Balthazar est aussi un centre de formation aux arts du cirque, où nous préparons 20 élèves au métier. Donc ils présentent leurs ateliers, leurs travaux. Le jeudi, on accueille une jeune troupe de collectifs, de clowns contemporains. Et le vendredi, justement, on s'est associé avec le pôle cirque, où il y a des présentations de cirque professionnel contemporaine. Donc là, il y a une unité. Puis on propose aussi des ateliers le jeudi et le vendredi pour les enfants et les scolaires. Voilà. Donc en effet, petit à petit, cet engouement permet aux gens de mieux connaître un peu ce que c'est qu'aujourd'hui les arts du cirque, dans leur nouveauté, dans leur expression un petit peu, leur esthétique. Mais également, évidemment, ils se rendent compte de tout l'intérêt d'un point de vue pédagogie artistique, éducation artistique.
Martin Gerbier, merci beaucoup. Je rappelle qu'on retrouve toutes les infos sur le site de Balthazar, balthazar.asso.fr. Et puis, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
Également à vous et merci de nous avoir invités.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Et c'est ainsi que va se refermer cette auberge espagnole. On va se quitter avec Trapèze, ça tombe sous le sens. Titre d'Alain Bachung, que l'on salue bien de l'autre côté du trou noir. Et puis on remercie Gérard Viol et Bruno Bertrand qui ont réalisé cette émission. Et en vous souhaitant une très belle fin de nuit, de journée, d'après-midi, de matinée, à l'écoute des programmes de Divergence FM.
On dirait qu'on se lie sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que l'eau soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord.